L'année 2014,
la culture joue un rôle très particulier.
Vu par la culture.
Culture.
On est obligé d'avoir une lecture politique là où le corps chasse le langage. Ce n'est pas du verbiage, c'est exactement ce qu'on va faire.
Oui, on est au cœur du pouvoir en ce soir de Noël dans le rendez-vous spécial forum L'année vue par la culture. Ce soir, diffusion de la 4e table ronde enregistrée en public à l'auditorium du musée d'Orsay le samedi 6 décembre. Il sera question de l'exercice du pouvoir, du président, de la photographie officielle et même de Feur Pèlerin. Mais tout de suite, direction le musée d'Orsay pour y retrouver nos invités.
Le titre de cette rencontre, le pouvoir a-t-il quitté la scène? Et pour en parler autour de nous, eh bien Geneviève Brisac, écrivaine, éditrice, dernier roman Dans les yeux des autres vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Isabelle Bocon-Gibaud, photographe, vous avez photographié et interrogé diverses personnalités qui ont, pour paraphraser le titre de votre ouvrage, Un pouvoir entre leurs mains, enquête sur l'exercice du pouvoir aux éditions Plein Jour. Et puis Pierre Schuller, cinéaste, auteur de Versailles, Les Anonymes et bien sûr de l'exercice de l'État. Et je voulais d'abord vous demander comment vous expliquez aujourd'hui cette effervescence autour de cette question du pouvoir dans la représentation télévisuelle, cinéma, littérature. Geneviève Brisac.
Il y a un état spectacle qui s'est installé avec des professionnels de la communication. On sent bien que les politiques eux-mêmes tiennent un discours tout le temps de communicants. Ils se considèrent de plus en plus comme des acteurs. Et donc, inversement, je crois que de l'autre côté, ça crée aussi un besoin d'interroger la véracité de cet exercice de l'État, comme le titrait Pierre Scher dans son film. Prenons la série Borgen, par exemple, que j'aime particulièrement. Dans Borgen, l'héroïne, donc, c'est une femme qui interroge la façon de faire, qui est prise dans des engrenages qui ne lui conviennent pas nécessairement, mais qui essaye de résister au nom de son exigence morale et politique. Et je pense à une autre série que j'ai vue ces jours-ci, donc qui est plus fraîche dans ma mémoire, qui s'appelle The Newsroom, et qui raconte, le Newsroom, ça raconte l'histoire d'un journal télévisé. Donc là, on est vraiment au cœur du pouvoir politique et médiatique. Et dans cette chaîne de télévision américaine, les journalistes qui sont là interrogent leur métier. Et je pense que les journalistes sont au même point que les politiques de ce point de vue-là. Ils interrogent leur métier dans le sens où ils se demandent s'il ne serait pas de nouveau temps de dire la vérité, s'il ne serait pas de nouveau temps d'arrêter de communiquer pour dire vraiment ce qui se passe, vraiment ce qu'ils voient, et de reprendre des vieilles habitudes qui étaient celles du journalisme et éventuellement celles de la politique aussi, qui étaient par exemple de recouper ses sources, de donner des informations, non pas en fonction de l'effet qu'elles vont produire, mais en fonction de la réalité qu'elles ont. Et c'est pour ça, Laurent Goumard, que j'avais apporté des tas de petites phrases de Winston Churchill. Je trouve que Winston Churchill est un bon exemple justement d'un discours politique et culturel. C'est un homme extrêmement cultivé qui n'était pas professionnalisé. C'est-à-dire qu'il disait sans arrêt des choses dérangeantes, insolentes, mordantes, très drôles et, je sais pas comment dire, anti-politiquement correctes. Et je pense que le fond de votre question, c'est la glaciation d'un monde par le politiquement correct, ce qu'il faut dire, la professionnalisation de ça, qui du coup oblige les artistes, puisque c'est à ce titre-là que vous nous interrogez, oblige les artistes, comme des enfants qui s'énervent, à agiter leurs petits bras en disant « redonnez-nous un petit peu de vérité ».
Benoît Lagan.
Oui, le pouvoir donc, a été traité dans les séries télévisées. Je pense par exemple, à la fin des années 2000, à l'arrivée de « À la Maison Blanche », cette série créée par celui qui a créé « Newsroom », Aaron Sorkin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que ce personnage de fiction qu'est le président Bartlett dans cette série télé, arrive au moment où les Américains ont besoin d'avoir un double de fiction, au moment où ils ont George Bush, parce que ça correspond à peu près. Comment vous le comprenez, ça, ce besoin que les créateurs ont eu, ce besoin de créer finalement un président fictif?
Moi, je pense que ça annonce l'arrivée d'Obama, on peut inverser les termes. Si tant est que les artistes sont comme des canaris dans la mine, hein. On descend avec eux, avec la lampe, et quand ils arrêtent de couiner, c'est qu'ils sont morts. Donc je pense qu'effectivement, la Maison Blanche annonçait une interrogation. Enfin, je ne suis pas du tout une américaniste, j'aime juste beaucoup à la Maison Blanche parce que y a des personnages qui sont porteurs d'une... d'une résistance politique, d'une éthique, comme par exemple l'attaché de presse CJ. Enfin, bon, on ne fait pas une émission sur les séries, mais c'est vrai que. Mais enfin, moi, ça ne me gêne pas du tout d'en parler. J'aime beaucoup ça. Et non pas que ce soit, comme vous le disiez, je m'en fiche que ce soit le nouveau genre littéraire ou pas, ça m'est complètement indifférent. C'est juste que j'aime regarder ça, comme j'aime lire des livres, et pour moi, ce n'est pas en concurrence, c'est de la création, quoi.
C'est vrai que même s'il y a, enfin, Isabelle Bocon-Gibaud, vous disiez à l'instant que vous n'aviez pas repéré manifestement une sorte d'inflation comme ça des séries autour de cette question du pouvoir politique. Pour autant, on pourrait dire qu'aux États-Unis, elle a été beaucoup plus présente et qu'en France, elle arrive dernièrement avec Les Hommes de l'Ombre. Comment vous comprenez que ce soit les États-Unis qui aient commencé véritablement à s'intéresser à cette question du pouvoir et que nous, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps? C'est la même chose d'ailleurs pour les films de guerre.
Je crois que là, c'est souvent les genres de spectacles se développent assez de manière assez musclée aux États-Unis, avec des moyens, du savoir-faire, une capacité à attirer des talents. Il y a eu un moment où beaucoup de talents littéraires partaient s'installer à Los Angeles et travaillaient dans des équipes de scénaristes. Donc il y a eu tout simplement un effet de moyens mis à disposition, de création extrêmement aboutie. Et ensuite, je crois que ces vagues arrivent chez nous un peu après. Je voulais juste, sur cette question du pouvoir, je crois que le pouvoir a toujours fasciné autant la puissance que l'impuissance.
Que l'impuissance, d'accord.
Et peut-être que ce qu'on observe aujourd'hui, je crois qu'on est dans un moment un peu de consternation devant l'impuissance, et qu'elle est fascinante, autant que la puissance. Peut-être un appel d'air ou, je ne sais pas, une curiosité pour l'extrême difficulté aujourd'hui à avoir prise sur nos sociétés aujourd'hui.
C'est pour cette raison que dans votre ouvrage, vous vous intéressez à tous les corps de métier, excepté celui des politiques, pour penser et repenser l'exercice du pouvoir. Pourquoi avoir évacué les politiques dans cet
essai ? Non, c'était pas pour cette raison. C'était parce que ce qui m'intéressait, c'était le singulier. C'était l'individu face à un autre individu dans un cadre professionnel. Et le politique est rarement face à l'individu singulier. Il est en général, son objet est une entité multiple et abstraite. Alors que la situation qui m'intéressait, c'était celle de l'épreuve du pouvoir par celui qui a devant lui un autre, qui le regarde dans les yeux, ou une autre, et qui est incarné, dont il ou elle d'ailleurs connaît peut-être l'histoire, la vie, etc., et pour autant va agir sur cet autre au nom d'un dogme, ou dans l'exercice d'une profession.
Benoît.
Pierre Scheller, au moment de la sortie de votre film L'exercice de l'État, en 2011, vous expliquiez que vous associez en fait cette présence des hommes de pouvoir à l'écran au fait notamment que la fonction avait été désacralisée, en particulier par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Nicolas Sarkozy et puis de tous les communicants autour de lui a pu faire basculer quelque chose dans la façon de représenter les hommes de pouvoir ?
En fait, moi, je repensais à Depardon et Giscard. Parce que c'est aussi un moment important dans la représentation de l'homme politique. Giscard fait une campagne copiée sur celle de Kennedy, campagne moderne, on le voit très bien dans le film de Depardon, et du coup, très fier de sa campagne, très fier de ce qu'il entreprend, il accepte la présence d'un cinéaste. Le cinéaste est là, lui colle au basque, comme ça, et il fait un film, et quand Giscard voit le film, il l'interdit. Il le censure. Donc là, il y a quelque chose qui se joue de très profond entre l'exercice politique, l'exercice du pouvoir, et sa propre image. Et ça dit aussi beaucoup sur la pratique française de l'image de l'homme politique. C'est-à-dire que c'est verrouillé. C'est-à-dire qu'on sort quand même de l'ERTF. On sort des appels, on sort de De Gaulle. C'est-à-dire, on est dans, c'est-à-dire le cinéma des années 70 est pris dans ça. Parce que quand je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de cinéastes qui voulait faire un film sur la situation politique, sur la situation de soit d'un ministre, soit d'un président, etc. Même, par exemple, quand je contacte Michel Blanc me dit « Je suis passionné par Gros Ouvre. Je lisais un livre sur lui. C'est un personnage que je voulais incarner. » Et c'est comme ça qu'il vient au rôle, Michel. Il vient avant même, au préalable de ma propre proposition. Et après, ça s'ouvre. Et ça s'ouvre, je crois, par les États-Unis, parce qu'à peu près au même moment de l'aventure de Pardon Giscard, ils ont le Watergate. Mm-hmm. Et ils ont les hommes du président. Et c'est là où ça s'ouvre. Et c'est là où la chose publique n'est plus du tout représentée de la même manière des deux parties de l'Atlantique. Et ils ont une culture de la représentation de la chose publique, tandis que nous, on n'a pas la culture de la représentation de la chose publique. On a la culture du portrait, de l'officialité, du rituel, de la maîtrise, en fait.
Geneviève Brisac, oui.
Du coup, ça donne des choses assez catastrophiques. Moi, je me souviens d'un film que j'avais vu sur la campagne de Jospin, je crois. Et je me souviens très bien de m'être dit, en fait, finalement, le travail de Léon Jospin, c'est qu'il est toujours en train d'écrire un truc. Est toujours dans son bureau en train d'écrire un discours. C'est en fait sa seule réaction par rapport à ce qui se passe, c'est d'écrire. Donc on le filme, on le voyait tout le temps en train d'écrire. C'était assez rigolo d'ailleurs. Il écrivait, toujours en train d'écrire des trucs. Quoi. Et après, évidemment, il y a Yasmina Reza, je me souviens, qui a écrit un livre sur la campagne de Sarkozy. De Sarkozy. Et ça a eu. Et là, on était en route vers une certaine désacralisation. Pas que Sarkozy.
D'exhibition.
Oui, voilà, c'est ça.
D'exhibition.
Désacralisation ou d'exhibition ?
La salle choisir.
Je crois qu'il y a peut-être aussi.
Isabelle,
il y a peut-être aussi ce paradoxe de. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en scène la normalité. Ce qui est quand même une idée un peu comique en soi. Donc, de donner un spectacle de normalité qui, dès qu'il dépasse l'image qu'on a voulu donner, veut être à nouveau verrouillé.
Mais c'est ce que je disais au début sur la communication professionnalisée, parce qu'en fait, tout ça est totalement faux, quoi. C'est juste pas vrai du tout.
Enfin,
quand je commençais à travailler sur le thème, vraiment les débuts du scénario, j'avais une phrase de Foucault en tête, qui était, je cite de mémoire parce que je ne l'ai jamais retrouvé et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait me retrouver l'origine.
Vous êtes en train de passer un appel.
Mais oui, ça fait 2 ans que je passe l'appel, j'attends toujours. Qui est, là où le pouvoir se rend visible, il n'est plus pouvoir. C'est-à-dire, une des natures du pouvoir est son invisibilité. Et ça, je crois profondément à ça. Je crois que dès qu'on aperçoit du pouvoir visible, c'est déjà quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la nature du pouvoir, mais de la communication autour du pouvoir. Donc un commentaire, une preuve de bienséance ou une preuve de
mise en scène,
de peur, d'émotionnel, mais que la vraie nature du pouvoir
est
de rester invisible. C'est-à-dire qu'on a, c'est comme une force dont vous ne pouvez sentir cette force que par des traces, mais jamais par le visage exact de cette force. Et c'était d'ailleurs une des gageures du film, c'est de réussir à filmer un truc qui échappe.
En France, j'ai vraiment le sentiment que c'est autour d'un président, enfin, c'est quelque chose presque du domaine commun, que tout a changé, que tout s'est cristallisé. Il y a eu, vous le parliez, c'est pour ça que vous en parliez, c'est pour ça que je fais référence à ça, il y a eu le livre de Yasmina Reza sur la campagne de Nicolas Sarkozy, il y a eu La Conquête, le film de Duringer, la série Les Hommes de l'Ombre, la BD Quai d'Orsay, puis son adaptation dernièrement par Bertrand Tavernier. Je me demandais, qu'est-ce que Sarkozy a produit au niveau de la représentation du pouvoir ?
Il y a eu avant Sarkozy, il y a eu le film de Guy Guillon sur Mitterrand, il y avait le film sur la maîtresse du président sous Giscard. Il y a tout le temps eu des films sur le pouvoir. Après, ils sont plus ou moins là et plus ou moins.
Vous n'avez pas eu le sentiment qu'à un moment donné, quand même, ces dernières années, c'était devenu un sujet de plus en plus présent ?
Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un affaiblissement du champ idéologique, pour parler. C'est-à-dire que par exemple, dans l'exercice de l'État, à un moment donné, je mets de côté la question gauche-droite.
Ouais.
C'était un pari, hein, c'était pas du tout sûr que ça passe. Est-ce qu'on pouvait regarder des hommes politiques en dehors de la question partisane ou en dehors de la question de est-ce que moi, qui fais le film, qui est là dans la position d'auteur, est-ce que je suis de gauche ou de droite ? Est-ce que c'est possible qu'on puisse s'intéresser à ces questions de ce positionnement-là.
Benoît.
Vous parliez de normalité, d'invisibilité. Comment vous voyez ça, Isabelle Bocan-Gibaud, vous qui avez photographié justement des gens qui exercent le pouvoir ?
Alors, mais justement, j'étais un peu restée sur cette question parce qu'il me semble qu'en tout cas dans nos cultures occidentales, le pouvoir s'incarne aussi dans des effigies. on a aussi besoin de... Enfin, je crois qu'on a, dans notre culture, le pouvoir est visible. Il est représenté par des effigies frappées sur une pièce de monnaie, en portrait, en galerie. Il est en image aussi, et il se présente en image. Et là où le commentaire que je faisais tout à l'heure, elle est sur la difficulté du glissement de cette image quand il semblerait qu'on voudrait, je dirais, la banaliser ou passer dans une espèce de normalité, alors que dans notre culture, le pouvoir n'est pas normal en réalité. Donc il y a une espèce de malaise. Je crois que la photographie continue à prolonger la sculpture ou la peinture dans la production d'effigies. Il y a encore quelques années, Thomas Struth a fait le portrait de la reine d'Angleterre et du duc d'Édimbourg dans le cadre d'une grande exposition à la National Gallery consacrée à toute la représentation picturale autour du règne de la reine d'Angleterre. Donc on n'a pas beaucoup évolué par rapport à ça. Quand le président est en photographie dans toutes les mairies, il y a cette image qui doit être présente. Dans le cadre de ce livre que j'ai écrit sur l'exercice du pouvoir, il n'y a en réalité pas de photographie.
Pas de photographie, ouais.
Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'autres portraits, mais pas dans celui-là. Le portrait, en fait, il est dans les mots. Donc ce sont des portraits, mais des portraits par le verbe.
Comment vous avez tous compris la photographie de Raymond Depardon, puisqu'on parlait de Raymond Depardon via Giscard, vous parlez de normalité. Tout le monde pense, bien entendu, au mot d'ordre de François Hollande. Comment vous avez compris la mise en scène de la photographie, du format qu'avait choisi Raymond Depardon, de la posture du président Pierre Scheller ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas été particulièrement intéressé par cette photo, en fait.
Ça dit déjà quelque chose.
Oui, ça dit qu'il n'est pas dedans, qu'il est dehors. Mais le problème, c'est qu'on va dire forcément quelque chose qui va parler de ce qu'on a, des deux années de pouvoir, alors que... Non, c'est juste une photo, vous voyez. Je crois que Raymond Depardon disait qu'il voulait une image en mouvement. Mmh. Il voulait qu'il marche, il voulait qu'il se déplace. J'ai souvenir de ça, mais ce n'est pas la photo, quoi.
Geneviève Brisac.
En fait, je pense que, si je me souviens bien, on était surtout très, très remontés, tout le monde, contre Nicolas Sarkozy, contre cette fabrique, contre ce détricotage de la fonction politique, cette exhibition d'ultra-nervosité, de surhomme, monter sur roulette, etc. etc. Donc, là, vous interrogez la citoyenne, je pense pas. En fait, en vous écoutant, je pensais à Mendès France. Je reconnais qu'il n'y a pas vraiment de rapport, mais je me disais, au fond, c'est vrai que moi, j'ai toujours, parce que sans doute, c'est lié à mon âge, je ne sais pas quoi, mais il me semble qu'il fut un temps où on s'interrogeait plutôt sur ce que faisaient des hommes politiques que sur leur apparence, leur je sais pas quoi, leur coupe de cheveux. Et évidemment, la télévision, toutes sortes de phénomènes qui se sont accélérés ont beaucoup changé les choses. Mais notre débat, il porte aussi sur le rapport que la culture entretient avec le pouvoir et la politique. Et c'est cette chose-là qui s'est, je pense, le plus dégradée. Et donc moi, d'ailleurs, ce que je me dis, c'est que c'est étrange, je suis à cette tribune, je ne me sens pas du tout légitime, parce qu'en fait, je suis un écrivain qui ne parle pas du tout du pouvoir.
Mais qui parle de l'engagement, de l'engagement dans ce dernier livre.
Ouais, et en plus, je déteste le pouvoir, moi. Donc je déteste le pouvoir en ce que les gens qui s'y identifient et qui l'incarnent se pensent toujours comme d'une façon ou d'une autre, comme justement des gens ou supérieurs ou des propriétaires, etc. Et que c'est presque impossible d'être un artiste à cet endroit-là où on est forcément de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la fragilité, du tremblement, de la vulnérabilité, etc. etc. Donc de la culture, c'est toute l'histoire de Fleur Pellerin avec disant qu'elle ne lisait pas de romans ni de livres, enfin, qu'elle lisait que des notes et que donc elle pouvait déjeuner avec un écrivain, activité sociale, photographier, représenter, etc., etc. Et ça ne la dérangeait pas de déjeuner avec un écrivain en n'ayant lu aucun de ses livres. Mais évidemment, on peut très bien déjeuner avec quelqu'un en n'ayant lu aucun de ses livres. Mais quel est l'intérêt ? Et c'est quelque chose comme ça. Or, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où justement on peut tout à fait envisager de déjeuner avec des tas d'artistes, de cinéastes, d'écrivains, etc. En n'ayant pas lu leurs livres, en n'ayant pas vu leurs films, alors que c'est les livres et les films qui sont intéressants et probablement la personne, pas nécessairement. En tout cas, éventuellement moins, puisque ça a été dit par d'innombrables gens et c'est vrai, la plupart des artistes sont moins intéressants que ce qu'ils font. Donc on peut éviter de manger avec eux et se contenter de lire leurs livres.
Vous venez de parler de la dégradation du monde, des rapports entre le monde de la culture et le monde politique. Vous le verriez apparaître depuis combien d'années, en tout cas, à titre personnel?
Je ne sais pas. Pompidou était censé être lettré, si je me souviens bien. Même il avait fait une anthologie de poésie. C'est pas pour ça, moi, je ne l'aimais pas tellement, hein, Pompidou. Mais enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Giscard a écrit des très mauvais romans. Donc ça ne devait pas être formidable non plus, parce que je me souviens bien aussi. Chirac, il aime l'art japonais, non, c'est ça.
Vous avez sauté par-dessus Mitterrand.
Et quant à Mitterrand, évidemment, c'est compliqué parce que Mitterrand, il aimait Jacques Chardon, donc il avait un rapport certain au livre, à la littérature, etc. Et il est un homme cultivé, c'est sûr qu'on a pas mal perdu de ce point de vue-là. Ça, c'est sûr. On sait que François Hollande n'a absolument rien à secouer des livres. Donc.
Je crois que Mitterrand aimait la langue. Il aimait la langue, ça le passionnait. Et ça se voyait dans sa pratique politique. Dans la manière dont il avait de débattre, d'exposer, oui, d'écrire, le petit livre de propositions en français, c'était écrit, c'est-à-dire qu'il y avait une langue. Voilà. Et aujourd'hui, on est aussi dans une langue, faut pas dire qu'on est hors de la langue, mais on est dans une langue
vulgaire, quand même.
Assez technique, assez marquée d'efficacité, on est dans une autre langue, quoi. Et ça, on le sent bien. Mais moi, je pense aussi que... En tout cas, une des difficultés que j'ai eues très tôt en travaillant sur le sujet, c'était de filmer une chose sur laquelle on est saturé d'images, d'anecdotes, de tous les jours. C'est-à-dire, je me disais, mais comment quelqu'un va aller voir un film avec un ministre alors que le matin, il prend un café, c'est une du Parisien. Vous voyez, il y a à peu près 60 interventions politiques dans la journée, tous médias confondus. C'est-à-dire que dans la journée, vous avez 60 personnes politiques qui vous disent quelque chose ou qui se répondent les uns les autres. Donc la première difficulté, c'était de créer un espace fictionnel d'invention, d'écriture, de regard dans cette saturation. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par le rêve. C'était pour vous dire, attendez, on va pas être à 7 à 8 ou une histoire qui s'est vraiment passée. On va être ailleurs. Accepter la traversée avec moi, mais on part d'ailleurs. On va essayer d'aller vers quelque chose. Et après, je me suis aperçu que, en fait, c'était un monde qui avait sa part d'inconnu, mais très grande. C'est-à-dire le monde des cabinets ministériels, il y avait très peu de choses. Très, très peu de choses. C'est-à-dire que il y a un ouvrage de Schrammeck, un peu technique, qui expliquait les différentes fonctions, l'historique, etc. Il y a un ouvrage absolument formidable d'une sociologue, Aude Harley, qui a interrogé sur, du point de vue de la sociologie clinique, le personnel politique, et qui est une bible, qui est vraiment une manière de comprendre aujourd'hui l'état du politique. Et c'est pour ça, par rapport au débat de tout à l'heure, la sociologie propose beaucoup de choses. Les sciences humaines travaillent aussi. Ce n'est pas forcément dit dans ce sens-là, mais je crois que les sciences humaines travaillent et plutôt bien.
Isabelle Lecon-Gibaud.
Oui, en fait, en écoutant Geneviève et Pierre, je pensais à cette question de la manière dont le monde de l'image investit le pouvoir et la manière dont le pouvoir investit le monde de l'image. Et je parlais d'un espèce de moment un peu d'impuissance politique. Et j'émets l'hypothèse, peut-être, que c'est un moment où la tentation du contrôle de l'image augmente, puisque finalement, comme on a moins prise sur le réel, l'image, elle est manipulable. La photographie l'a toujours été, que ça soit en mise en scène anté-prod ou en post-prod, de plus en plus facilement aujourd'hui avec les outils Photoshop et compagnie. Mais l'image, pas seulement photographique, l'image est manipulable, et donc la tentation du contrôle se déporte et surinvestit l'image, je dirais en espèce de symétrie de son incapacité à réellement embrayer sur le concret. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on observe en ce moment. Voilà.
Vous avez des exemples précis, par exemple, pour visionner exactement ce que vous avancez. En fait, il y a des choses auxquelles vous pensez.
Toute la mise en scène de la
de le la congrès vie. De l'UMP avant-hier, quoi. Voilà, on les voit entrer dans le couloir. Ça, c'est la... J'ai deux points.
C'est ça. Quand on les voit entrer dans le couloir.
Ils replie ouais, ensuite. Mais on a tous vu si les voulez... deux. On ouais. les a vus avancer dans le couloir, on les a vus repartir. Ils se fichent de nous un ouais. peu aussi.
Et moi, je crois qu'il y a aussi le deuxième temps de traumatisme. Il est au moment où Jospin quitte la tribune. Et c'est un vrai traumatisme. C'est un traumatisme pour tout le monde, pour ses proches, même peut-être pour ses adversaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un renonce, quelqu'un se retire. Et c'est en direct. Et là, d'autant plus que je crois que Jospin a essayé de dire exactement le pouvoir qu'il avait dans les mains. Et la part d'impuissance aussi. Et sa part de puissance, sa part d'impuissance. Il a essayé de le dire. Et en essayant de le dire, l'élection le met KO. Donc il y a quelque chose, il y a un drame national pour moi qui se passe là, sur notre rapport aux politiques. Et après, la communication politique perd toute lucidité, toute entreprise de pédagogie, d'une certaine manière. Je prends un exemple de ça. Une loi ne peut se faire, une réforme, que dans un travail interministériel. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'une loi se fait dans un équilibre, dans un arbitrage entre différents ministères. Vous voyez jamais à la télévision deux ministres venir présenter ce travail-là ou le défendre. Jamais.
Donc la première fois ou une des premières fois où le pouvoir aurait littéralement quitté la scène, ce serait avec Jospin, alors ?
Je sais pas, on peut en discuter. Hein.
Geneviève Brisac ?
C'est deux, en suivant le fil de cette pensée-là, il y a deux figures comme ça. Il y a la figure de Giscard, au revoir. Voilà, que tout le monde a en mémoire, tellement parce qu'elle est, elle est drôle, en fait.
Peut-être pas pour lui.
Peut-être pas pour lui. Oui.
Enfin, sauf qu'il est toujours là, malgré tout.
En tout cas, c'est par cette image, oui.
Par cette image, il reste, alors même qu'il laisse ouais. un fauteuil vide ouais. et l'écran vide.
Et ça fait écho à l'image de Jospin, qui est comme s'il y avait une autre époque, mais qui est...
Avant même d'avoir agi, quoi.
Mais qui est pour moi, enfin, je ne suis pas du tout sûre de ce que je dis, et franchement, vraiment pas, mais il me semble quand même que ce que ça traduit et qui est très très désagréable pour le citoyen ou les citoyennes que je suis, c'est qu'on a envie de dire, mais on s'en fout de ton problème à ce moment-là. C'est ton problème de Jospin. Mais mon problème de citoyen, c'est que tu fasses le boulot. C'est pas que tu me dises que tu te sens coupable, que tu aurais dû faire autre chose, que je sais pas quoi. Donc, est-ce qu'on va retrouver ensuite, après aussi avec Sarkozy, c'est, enfin, pour moi, c'est-à-dire ce côté personnel, individuel, narcissique, en fait. C'est pour ça que j'ai apporté les phrases de Churchill aussi, parce
c'est
que
très ça bien.
Non, mais parce qu'on sent bien que... Enfin, je sais pas non plus... on sent bien que quand Churchill s'exprime, ce que les gens pensent de Churchill, c'est ça, ils s'en fichent, mais ils s'en fichent complètement. Donc, il passe son temps à présenter lui-même une image déplorable, il no sport, il ne fait que boire du whisky matin, midi et soir, il explique que prendre le petit déjeuner avec sa femme deux jours de suite, c'est au-delà de ce qu'il peut supporter. Enfin, que les trucs sont vraiment très, très drôles. Et enfin, j'en ai plein là, je ne vais pas du tout les lire, mais c'est vrai que donc c'est pas une image fonctionnelle. Dire ça rejoint cette histoire de pas deux ministres en même temps, ou c'est-à-dire que c'est pas de l'image programmée, professionnalisée, contrôlée, etc., etc. C'est d'exercice du pouvoir parce qu'il y a des trucs à faire, quoi.
Isabelle Le Conjibaud, vous avez aussi vous une image comme ça?
Non, ce à quoi me font penser les deux épisodes qui ouais. sont relatés. C'est évidemment l'extrême rareté du moment où l'individu perce, au-delà de son espèce de carapace ou d'image plus ou moins volontairement transpirée. Et ce moment est saisissant. Je crois que quand Giscard quitte et qu'il nous laisse sa chaise vide, en fait, il n'a peut-être jamais été aussi présent voilà, avec ça. Là, il y a un individu qui perce et ce moment est vraiment saisi, et saisi aussi par le contraste avec, en général, l'absence. Et Churchill, typiquement, est quelqu'un qui reste dans nos mémoires comme s'étant totalement assumé pour qui il était, n'ayant jamais prétendu être quelqu'un d'autre, et occupé à la tâche et pas à faire semblant d'être plus aimable qu'il ne l'était ou moins drôle qu'il ne l'était.
Geneviève, président ?
Oui, cette histoire d'individu qui perce, c'est intéressant parce que c'est très à double sens, en fait. C'est-à-dire que ça peut être l'individu qui perce au sens de l'individualisme narcissique contemporain qui, à mon avis, fait tellement de mal, où c'est sans arrêt la personne, sa représentation, ou c'est la vérité de l'individu pour reprendre l'exemple de Michel Blanc, où c'est qui, mais à ce moment-là, la vérité de l'individu, d'une certaine façon, elle est anti-narcissique. Et donc, c'est ça, c'est un truc qui est assez compliqué et assez subtil.
En fait, oui, je pense que quand je parlais d'individu qui perd, c'était de sa faille ou de, d'une faille, d'une vulnérabilité. Donc, tout le contraire d'une projection narcissique à la Sarkozy, en fait. Enfin, voilà, qui a, je crois, auquel on en veut un peu tous, enfin je ne veux pas trop généraliser, mais de l'espèce de dégradation quand même, de vulgarisation, on parlait de la langue. Moi j'ai lu des verbatims de discours donnés par le président Sarkozy, c'est, on croirait qu'il se prend pour Sarah Palin, hein, c'est avec une espèce de revendication de l'antigrammaire, enfin c'est vraiment consternant.
Benoît.
Alors, il y a tout ce que vous dites, et puis il y a aussi une notion intéressante dans l'exercice du pouvoir, c'est la notion d'isolement. On a vu par exemple dans le documentaire de Patrick Reutemann sur les premiers jours, les premiers mois de François Hollande dans son film Le Pouvoir, comment parfois il pouvait être isolé, alors que pour autant très entouré. Il y a eu le film sur la fin de l'équipe Sarkozy, signé par David André et Thomas Legrand, Les Stratèges, où on voyait aussi des gens totalement isolés. Et on voit ça aussi dans votre film, Pierre Scheuler, où il y a une réplique intéressante, c'est le personnage qui regarde son smartphone et qui dit « J'ai 4000 contacts et aucun ami à qui parler ». On le voit de plus en plus, cette idée-là, on le voit aussi dans les séries télévisées américaines qui montrent le pouvoir, l'isolement, comment on peut le montrer, comment les artistes peuvent le montrer.
En même temps, oui, il y a quelque chose de cet ordre. Mais je crois qu'en fait, le pouvoir transforme l'être. C'est-à-dire que, et aussi le regard sur cet être, c'est-à-dire que quelqu'un est nommé, on va lui parler différemment. On va le regarder différemment parce que il a le costume, il a la charge, il a la fonction, et donc il y a une première comme ça solitude qui est une fois que vous êtes comme ça dans cette situation de pouvoir, et ben vous sortez de la communauté. Et je crois que et bizarrement on vit en démocratie, en république, mais il y a quelque chose de très archaïque qui continue de se manifester, qui est celle de cette distinction du pouvoir sur les individus, et surtout en France. On connaît tous l'anecdote de ce ministre qui va en Suède et qui est accueilli à l'aéroport par une femme qui se présente, je vais venir avec vous, ils prennent le métro, etc. Et au bout du compte, il s'aperçoit qu'en fait, lui cherchait la ministre, son équivalent ministre suédois, et c'était cette femme avec qui il a pris le métro. C'est-à-dire que c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi comment le pouvoir surjoue, enfin le pouvoir politique, parce que c'est un petit peu moins vrai du côté de l'industrie où il y a d'autres codes, d'autres signes, mais encore. Et c'est aussi un autre domaine dont on pourrait parler, qui est encore moins connu, mais absolument passionnant. Donc le pouvoir a besoin de surjouer sa position de pouvoir. Et il y a effectivement, je crois que maintenant on le voit très clairement, c'est-à-dire dès que ça se vide dans sa puissance de faire, ça surjoue. Et Sarkozy en est un prodige de ça.
Isabelle Le Conjugod.
Pour avoir, et c'était d'ailleurs à l'origine de mon livre, été dans des situations industrielles d'exercice du pouvoir, je peux confirmer absolument ce que dit Pierre, y compris dans un cadre industriel. De toute façon, dès qu'on est dans une position de pouvoir, on est en position de faire quelque chose pour d'autres. Et donc, il y a une manière immédiate de s'aligner autour et de se comporter différemment, même sans forcément y penser à mal ou penser de manière utilitaire, qui va s'installer et qui isole celle ou celui qui est dans cette position. Et plus l'étendue du pouvoir est vaste et plus la puissance imaginée est grande, imaginée très souvent d'ailleurs, plus cette espèce de révérence et du coup de distance augmente.
Pierre, je voulais un mot, c'est que une anecdote qui m'était rapportée sur un élu local du sud-ouest qui se rendait chaque semaine pour aller à Paris, et aller au petit aéroport, il a le temps, il fait la queue, les gens disent mais il est rien quoi. Et s'il fait pas la queue parce qu'il est pressé, on dit oh quel privilégié, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme politique a toujours faux. On est dans une situation de déception, de dépit, de d'écœurement, de nausée, qui fait que l'homme politique, quoi qu'il fasse, a toujours tort.
Vous pensez que c'est un fait de cette époque, d'aujourd'hui, ou que ça a toujours été le cas, en fait ? J'ai l'impression que ce discours, je l'ai toujours entendu, le fait qu'il y ait une déception du côté du politique.
Ah non, moi, je crois que c'était clivé. Avant, il y avait encore l'espoir d'un renversement, par exemple. Parler de De Gaulle, Pompidou, il y avait un espoir de lutte. Il y avait des gens qui s'incarnaient dans ces luttes.
Geneviève Brisac.
Non, j'étais de part et d'autre. Je me souviens très bien, moi, quand il a commencé à y avoir le bébé de show, les guignols de l'info, etc., etc., moi, ça m'amusait beaucoup. Mais je me souviens très bien qu'autour de moi, pour des personnes qui avaient eu des engagements politiques, qui avaient lutté pour différentes choses, ou qui lisaient Le Monde de manière sacralisée, 13h42, on était en route vers quelque chose de terrible. La désacralisation, précisément, était à l'œuvre et on tournait en ridicule la représentation. Et au fond, peut-être que ce n'était pas totalement faux, bien que ça puisse aussi se retourner, parce que ça crée aussi des effets de révélateur. Mais on voit bien comment les choses jouent de part et d'autre dans cette... Normalement, enfin, on sait bien depuis le double corps du roi et tout ça, on sait bien que la fonction politique ne dépasse totalement, et c'est vrai aussi d'ailleurs, les gens qui l'incarnent, on s'en fiche d'eux. Moi, c'est un peu ça que j'essaie de dire depuis le début, c'est que les individus, d'ailleurs, dans tous les domaines, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'ils font. C'est pas important, pour les écrivains, c'est pareil, c'est, ce qui compte, c'est leurs livres, ce qu'ils racontent.
Ce qu'ils sont aussi est important, Geneviève Brisac.
Pas nécessairement. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui compte tellement. Un homme politique ou une femme politique, ce qui compte en définitive, c'est comment il investit sa fonction et qu'est-ce qu'il en fait. Mais or, aujourd'hui, ce qu'on met toujours en avant dans le cadre de cette professionnalisation médiatique, c'est il faut être habillé d'une certaine façon. Et dur, on va commenter. Moi, je me souviens très bien parce que mon engagement, très, très provisoire d'ailleurs, mais engagement, il y a eu aux côtés de Ségolène Royal. C'était une tribune que j'avais écrite dans Le Monde, je crois, pour dire que j'aimerais bien qu'on arrête de parler de ses habits. Parce que c'était, ça s'appelait, les mâles coloniales du mépris misogyne. C'est-à-dire que c'était sur comment ça se fait qu'il y a une femme qui surgit, on parle tout le temps de sa coiffure, de son maquillage, de ses jupes, de ses chaussures, etc. etc.
Et c'était aussi un enjeu pour elle, parce que manifestement, elle avait changé au cours de la campagne, la façon qu'elle avait de s'habiller, de se présenter, de se coiffer.
Parce qu'elle était dépendante de ça, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas, en tout cas, elle ne faisait pas autrement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous-mêmes, quand on est devant, quand on regarde la télévision les hommes politiques, on dit quand même sa couleur de cheveux, là, il est un peu exagéré, il devrait machine. Donc, quand même, elle aurait peut-être dû faire un lifting un peu moins soutenu. On fait tous ça.
J'aimerais regarder la télé avec vous, Geneviève Brisac. J'adorerais.
Non, mais je crois que tout le monde fait ça. C'est parce qu'on est normaux. On regarde, dis donc, là, franchement, elle exagère.
Peut-être une question à tous les trois aussi sur le rapport entre le politique et la culture, et en tout cas entre le couple qui n'existe plus et qui a existé pendant un moment. Entre le ministre de la Culture et le président de la République. Comme si, à un moment donné, dans l'histoire politique française, c'était les communicants qui avaient pris la place du ministre de la Culture, alors que pendant un certain temps, le ministre de la Culture était le meilleur communicant du président de la République.
Pierre Cholin. Super bonne phrase de Churchill, puisque c'est...
Vous allez en trouver une pour la fin. Le mot de la fin, ce sera Churchill. Ouais.
Donc, Churchill, à qui on disait juste après-guerre que malheureusement... On allait couper les budgets de la culture parce qu'on mettait tout dans les crédits de la guerre. A dit, mais alors pourquoi on fait la guerre?
Pierre Scholler, Isabelle Auconjibaud et Isabelle Auconjibaud, oui.
Effectivement, ce découplage aujourd'hui...
Qui a bien fonctionné à un moment donné, franchement.
Oui, qui a bien fonctionné, mais Malraux, peut-être les attentes... Malraux,
Jack Lang aussi.
Les attentes qui se sont déplacées. Donc il y a eu évidemment des commentaires sur l'épisode Fleur Pellerin, Modiano...
C'est important, c'est pas négligeable.
Tout à fait. Et j'ai eu d'autres échos industriels commentant sur l'extrême compétence de Fleur Pellerin en matière de numérique et qu'en réalité c'était vraiment ça, que là elle était vraiment extrêmement forte et qu'on ne pouvait pas être fort en tout et qu'après tout c'était peut-être pas si grave. Donc découplage.
Oui, on ne demande pas au ministre des Transports de conduire le TGV.
Voilà.
On lui demande pas quoi ?
De conduire le TGV. Ouais. Non, lui demande
donc
pas.
Découplage, oui, tout à fait, et voire même interrogation sur le fait effectivement de confier le portefeuille de la culture à quelqu'un d'extrêmement compétent dans un autre domaine.
Enfin, Pierre Scheler, dont vous parlez, ils sont, les livres, enfin la littérature, c'est pas vraiment leur obsession numéro un non plus.
Alors sur ces divisions, je suis pas sûre du tout. Je pense que les intérêts traversent les lignes d'activité. Donc non, je pense qu'il y a des grands lecteurs dans tous les secteurs.
Pierre Scheler, sur cette division en effet du couple ministre de la Culture, président de la République, qui a existé, qui a été un moment fort de la politique en France.
En fait, non, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ça, parce que...
Comme si le rôle était aujourd'hui rempli par, véritablement, les communicants, ce qui est mis en scène dans les fictions aujourd'hui.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas spécifique au poste de la culture. Y a une chose qu'on a du mal à suivre aussi, c'est comment telle personne peut se retrouver à quatre portefeuilles différents en quelques années. Oui, c'est ça aussi qui est en jeu. Comment ça se produit et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, si en plus la personne fait l'aveu en disant je ne lis pas de littérature et qu'elle est à la culture, là, évidemment il y a quelque chose qui est pas rassurant, qui est un espèce de bug quoi. Et d'autant plus qu'aujourd'hui un fait comme ça, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'un fait comme ça est un sparadrap dont on se débarrasse pas. C'est, je pense toujours au capitaine Haddock dans l'avion. Dire, c'est qu'un sparadrap, c'est quoi ? C'est une phrase dans des torrents, dans des discours, des faits, des journées. Par contre, c'est ce qui va marquer. Et ça, c'est là, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce phénomène-là.
Geneviève Brisac.
Oui, je pense que c'est toujours le pouvoir politique est toujours victime de symboles. C'est exactement comme un jeune homme meurt à Sivin, ça devient. La manière dont le ministre Cazeneuve s'exprime à ce moment-là va résonner en permanence, de même que c'est l'histoire, enfin peut-être on n'a pas parlé, l'histoire, c'est ça l'histoire, l'histoire avec un grand H, c'est qu'elle se fait comme ça. Peut-être que dans les livres d'histoire, la phrase qui restera de l'année 2014, entre autres, sera cette phrase de Fleur Pellerin, peut-être, parce que ça dira quelque chose du rapport entre la culture d'un pays, ses forces vives, et un pouvoir politique qui est obsédé de technologie, de nouvelles technologies, d'économie, de principes de réalité, de « excusez-nous, mais c'est la crise, alors vous repasserez un peu plus tard », etc.
Et ça a rapproché de tel État américain qui commence à arrêter l'enseignement de l'écriture cursive
absolument,
à l'école.
Absolument.
C'est là où ça commence à dire quelque chose.
Isabelle Bocon-Gibaud.
Oui, il faut aussi. Après, il y a aussi une question de ce qu'on demande à un ministre de la Culture, qui sont à la fois des compétences d'administration, de gestion, d'entretien du patrimoine national, etc., etc., ou d'incarnation, de capacité à incarner la culture, donc par la lecture, l'intérêt porté à la chose, qui sont des choses complètement différentes. Donc, ne pas avoir lu ne présage en rien d'une mauvaise administration.
Oui, mais
Pierre Scheler, ensuite Geneviève Brisac.
Peut-être qu'on lit sur des tablettes, peut-être qu'on lit sur son téléphone, mais on lit encore. Et le livre est autre chose qu'une affaire de point zéro. Vous voyez, donc, à ce moment-là, il faut appeler ça le ministère du point zéro.
La communication. En plus, moi, je trouve que l'histoire de lecture, elle est très importante parce que, comme tout le monde le sait, la lecture, c'est une activité lente. Et on est dans un monde rapide. On ne peut pas lire un livre vite. Et il y a beaucoup de livres. Et donc, en général, ce que les gens qui ne lisent pas vous disent, c'est... Vous vous rendez compte, avec tous les livres, déjà, si j'en lis un, ça me rappelle l'histoire des chiens, vous savez, où il disait elle fait du vélo, ta Yourcenar. Et donc, il y a cette chose que moi, comme je m'occupe aussi de livres pour enfants, le nombre de gens qui viennent vous dire que de toute façon, lire des livres, on fera ça quand on aura le temps, et pour le moment, on n'a pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses prioritaires. D'ailleurs, j'ai arrêté de lire. Et c'est d'autant plus vrai que la classe journalistique elle-même est... prise là-dedans, dans cette vitesse. Et moi, j'en ai fait l'expérience à la rentrée, c'est que j'ai rencontré, forcément, publiant un livre, beaucoup de journalistes, et je peux dire aujourd'hui qu'à peu près 75% de ces journalistes n'avaient pas eu le temps. Et donc, ils me disent, bon, évidemment, j'ai pas eu le temps de lire votre livre.
En plus, ils le disent. Un peu comme Fleur Pellerin.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien entendu ce son. Et forcément, je disais, non, mais bien sûr, je comprends très bien.
Disiez ça. Je ne vous reconnais pas, Geneviève Brisac. Vous disiez ça. Mais pourquoi vous disiez ça?
Est-ce que vous voulez que je dise je sais pas quoi dire. C'était, il y a rien à dire. Même des libraires, aussi bien des libraires, ils disent bon, vous comprenez bien. Vous comprenez bien que j'ai autre chose à faire que de lire des livres. Et on entend ça. Et alors, bon, on s'habitue. Moi, je pense que c'est une espèce d'effet de moi, je suis maintenant, je suis totalement
habitué à ce qu'on ne lise pas vos livres.
Ouais, exactement. Ça n'est pas grave. D'ailleurs, en plus, d'une certaine façon, je pense que c'est pas tellement grave. Donc, ben ouais, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis les journées sont courtes. On a beaucoup de boulot. Et puis il y a tellement de livres. Il y a aussi cet argument-là qui est extrêmement utilisé. Il y a tellement de filles, il y a tellement de spectacles, il y a tellement d'expositions.
Il y a tellement de yaourts aussi.
Oui, il y a tellement de yaourts. Ça n'empêche pas d'en manger. Mais
Isabelle Gaucon-Gibaud.
Je suis parfaitement d'accord. Peut-être que Laure Pellerin sera une formidable avocate des libraires, de la place du livre dans la culture, de la place du livre à l'école, etc., etc. Tout ça n'a pas une corrélation forte avec le fait de passer ses soirées à relire sa bibliothèque. C'était le seul...
Je ne sais pas, peut-être que si.
Oui, peut-être que oui.
Moi, je l'ai ressenti, puisque pour faire une minute et demie sur mon propre travail, puisque je l'ai ressenti en publiant ce livre Dans les yeux des autres, donc qui revient sur les années 70, considérant qu'elles ont été...
Sur un engagement, sur une, oui. Sur une femme engagée, militante, qui écrit un livre sur ces années-là et qui va l'isoler du reste de sa communauté.
Absolument. Et j'étais très frappée du fait que cette atmosphère révolutionnaire, dans le sens d'ailleurs créatif du terme, c'est-à-dire que c'était des années où les gens qui les vivaient étaient absolument certains de pouvoir inventer leur vie librement et que ça se ferait, parce que s'ils le voulaient, ça se ferait vraiment. J'étais très frappée de l'agressivité que j'ai rencontrée, alors que je ne m'y attendais pas du tout, sur le mode, de toute façon... C'est de la nostalgie déplacée, alors que c'était absolument pas nostalgique, ou de toute façon les gens des années 70 sont tous pourris, ce qui est absolument pas vrai. Et il y a même eu d'ailleurs des études d'une sociologue qui est parue cette année montrant que des gens qui avaient traversé les années 70 en investissant les valeurs de ces années-là, en particulier de fraternité, de changer la vie au jour le jour, aujourd'hui encore, par dizaines de milliers, persévéraient dans leur être et continuaient à faire ce qu'ils avaient toujours voulu faire, indépendamment des... Et étaient du côté, comme moi, je pense l'avoir toujours été, d'ailleurs, de la vulnérabilité comme lieu de création et de la fraternité comme lieu de chaleur, disons, humaine. Et donc, j'étais très frappée par ça, par le fait qu'on est dans une période assez violente où toute création, et on le voit encore d'ailleurs ces jours-ci, engendre immédiatement, non pas débat, mais haine, parano... voilà, c'était tout.
Et si le mot de la fin revenait à Winston Churchill ? Vous ouvrez le livre au hasard, le vôtre, Geneviève Rizac, on va voir ce qu'il va nous raconter.
Oui, en général, je prends le journal de Kafka, mais aujourd'hui, c'est Winston Churchill. Alors, je ne déteste personne sauf Hitler, mais c'est pour raisons professionnelles.
Ça sera tout donc pour aujourd'hui. Merci à vous trois.
Merci à vous.
On est obligé d'avoir une lecture politique là où le corps chasse le langage.
Merci à nos invités, Geneviève Brisac, Isabelle Bocon-Gibaud, Pierre Schuller. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Ça a la forme d'un cône sur un piédestal. Et puis, cela a une forme qui rappelle aussi un sextoy.
Demain, tant qu'il y aura du sexe, la dernière cause des artistes, ce sera la cinquième et dernière table ronde enregistrée en public depuis le musée d'Orsay à Paris avec Catherine Millet, Elisabeth Roudinesco et le chorégraphe Olivier Dubois. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, format table ronde, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, à la réalisation Olivier Guérin, à la prise de son Bernard Le Gac, Frédéric Ayrou et Hervé Dubreuil, chargé de production Franck Malabry. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours ou la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon Noël à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre sur France 5.